tous. La grande table à l'heure européenne, toute cette semaine, à partir de 12h55, dans votre grande table des idées. Les identités sont-elles le moteur du populisme? Pour retrouver l'Europe, faudra-t-il en passer par un retour aux sources, aux grands mythes? Nous ouvrirons la discussion à partir de 12h55 avec l'historien Marc Lazare, co-auteur de Peuplocratie, et le philosophe italien Carlo Ossola, auteur quant à lui de Fables d'identité au puf. Mais d'abord, un grand du pays plat, figure de la scène européenne. Ces pièces se jouent dans le monde entier. Rendez-vous jusqu'à 12h30 avec le flamand Ivo Van Hove. Le metteur en scène des Danais présente actuellement sa nouvelle création à la Villette avec le Théâtre de la Ville, The Hidden Force du néerlandais Louis Couperus. Dernier soir, ce soir, il est pour l'heure notre invité jusqu'à 12h30. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Ivo Van Hove.
Bonjour.
Vous avez grandi dans un petit village de la Belgique flamande, premier pas sur une scène à l'âge de 11 ans avec la troupe de votre école. Aujourd'hui, vous êtes l'une des figures du théâtre contemporain et européen. Vous avez peut-être le sentiment, rétrospectivement, d'avoir été porté, comme toute une génération, la vôtre, par une envie de renouveau, par un désir de rupture. Il a été là, l'élan pour vous, l'élan vers la scène, vers le théâtre.
Oui, c'était quand j'avais 17-18 ans, en Flandre, en Belgique, mais j'habitais en Flandre, et le théâtre, les arts étaient vraiment sclérosés, oui. Et nous, nous ne voulons pas faire part de ça. Alors, et c'était aussi un temps, l'âge du punk, hein, et aussi à Anvers, où j'habitais. Le punk était très vivant et très présent aussi dans la ville. Et, on avait aussi des bandes, des groupes, bien sûr, rock, qui jouent le punk, mais aussi, alors, ça m'a influencé beaucoup, mais ça m'a influencé aussi avec, des autres, comme Jan Fabre et Anne-Thérèse de Kirchmaker, tous les grands chorégraphes et metteurs en scène, encore maintenant, qu'on ne voulait pas faire part de la société traditionnelle. On voulait vraiment faire une rupture, mais pas dans les rues, mais dans notre art.
Le Belge Guy Cassir, c'est un joli mot pour cela. Il dit être un metteur en scène ou tout simplement un citoyen caméléon. Écoutez.
Je pense que Belgique est très petite. Et ça nous donne... On n'a pas une grande histoire historique, culturelle. On était toujours parti d'un autre pays. On est très jeune. Alors, on n'a pas vraiment un grand bagage. On est des caméléons qui doivent absorber toutes les choses de notre environnement. Et pour ça, on doit, même si je parle pas très bien le français, dans notre école, on doit, c'est quatre langues qu'on doit étudier. Et ça nous donne, je pense maintenant, une certaine pensée ouverte. Parce qu'on est très petite, on n'a pas beaucoup de l'argent, mais on a de la liberté pour réinventer les codes de théâtre, pour réinventer aussi un théâtre de la ville.
Comme Guy Cassiers, vous diriez, vous et vous Van Hove, que cette économie de moyens, à vos débuts, vous a à tous donné, et à vous, une liberté de créer.
Oui, on n'avait rien. Et on ne voulait rien. On ne voulait pas d'argent du gouvernement. On ne voulait pas, parce qu'ils ont soutenu le théâtre qu'on ne voulait pas. Alors, c'était vraiment... C'est comme le cri de Munch. Hein? C'était vraiment un cri existentiel de dire, on est là. On est peut-être différent des autres, mais on est là et on est là pour longtemps. Et c'est ça. On a vraiment, Guy Cassir et tous les autres, et moi aussi, on a vraiment coupé tous les liens avec la culture qui existait dans ce temps-là en Flandre et en Belgique. On voulait vraiment quelque chose de nouveau et on a cherché ça parce qu'on ne savait pas quoi. bien sûr, quoi que ça pourrait être. Mais oui, Guy Cassis est encore là, moi je suis encore là, Jan Fabre est encore là, Alain Platel est là, Anne-Thérèse Kesch, beaucoup.
Mais à quel moment l'institution vous a rattrapé? Parce qu'aujourd'hui vous montez des pièces dans le monde entier, oui. Tout le monde voudrait vous subventionner aussi pour ces pièces-là.
Oui, c'est vrai. Maintenant, je suis au centre de tout ça. Je suis très conscient de ça, mais aussi, je sens aussi la responsabilité de pas devenir ce que les autres ont devenu dans les années 70 et 80 de l'autre siècle. Alors, je suis très conscient de ça. Alors, je supporte toujours les jeunes, aussi les jeunes metteurs en scène nouveaux, aussi dans mon théâtre à Amsterdam. Par exemple, Julien Gosselin, il a fait un spectacle chez nous, un spectacle avec mes acteurs. On travaille aussi avec des jeunes metteurs en scène anglais.
La suite de sa trilogie, hein, Robert, qu'il avait, Julien Gosselin.
Mais aussi Robert Icke, Simon Stone, il travaille toujours avec ma compagnie. Alors, ma compagnie, ce n'est pas seulement moi. Il y a 11 metteurs en scène chaque 4 années.
Alors depuis 2001, en effet, vous vous appuyez sur une troupe solide, le Tonnels Group Amsterdam, devenu l'International Theater Amsterdam, que vous dirigez, l'une des compagnies les plus inventives du moment. Mais alors ça, c'est étonnant aussi. Comment ça s'est fait à un moment que votre ancrage territorial, depuis 30 ans, ce ne soit pas la Belgique, mais les Pays-Bas?
Oui, ça c'est vrai. Parce que quand on est jeune, devenir... directeur artistique d'une troupe, c'était vraiment fin de carrière position. C'était vraiment comme ça. Alors, je savais, quand je reste à Belgique, j'ai pas de chance. Alors, c'est une actrice le plus connue dans ce temps-là de la Belgique, qui aimait beaucoup mes spectacles et qui est devenue une amie de moi, très proche. Elle m'a dit, il faut s'en aller. Il faut s'en aller. Il faut vraiment pas rester ici, pas rester en Belgique. Et alors, j'avais la chance, après 10 ans, j'avais 29 ans, de devenir directeur artistique d'une troupe au sud de l'Hollande. Je suis resté pendant 11 ans et après, on m'a donné le plus grand théâtre de l'Hollande, ce qui s'était tourné comme Amsterdam. Je suis très heureux d'être là pendant, il y a 18 ans déjà. Oui, je suis très loyal.
Depuis 2001, dans ces années-là, les années 80-90, le rêve c'était de partir à New York. Vous, vous avez attendu un peu pour le concrétiser, ce rêve-là.
Oui, à New York, je travaille déjà il y a longtemps, hein, parce que mon premier spectacle, c'était à 97.
À New York.
À New York, oui.
Alors j'en précise juste qu'aujourd'hui vous adaptez un West Side Story de Leonard Bernstein et Jérôme Robbins, qui a été créé en 57, cette comédie musicale si emblématique. Vous êtes en train de l'adapter pour Broadway avec la chorégraphe la plus conceptuelle d'aujourd'hui, Teresa de Kersmaeker, dont vous avez déjà parlé. C'est un peu la suite de votre mise en scène à Broadway de la dernière œuvre de David Bowie, Lazarus, juste avant sa mort. C'est vous qui avez embarqué Teresa de Kersmaeker dans cette aventure-là?
Oui. Oui, c'était mon idée, parce que à New York, quand on fait West Side Story, c'est obligé de utiliser la chorégraphie de Jérôme Robbins,
qui est magnifique,
qui est magnifique. Hein. Mais moi j'ai dit à mon producteur, c'est un producteur très puissant à Broadway et aussi dans les films, c'est Scott Rudin. J'ai dit, je veux faire un West Side Story pour le 21e siècle. Alors, c'est nécessaire de refaire la chorégraphie, parce que la chorégraphie dans West Side Story, c'est plus que la moitié du spectacle. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de danse dans West Side Story. Alors, il a accepté ça, et aussi les États on dit à New York, les états de Bernstein, de Jerome Robbins, de Arthur Lawrence, qui a écrit le livre, et de Stephen Sondheim, qui a aussi écrit les chansons. Ils ont tout dit oui. Ivo peut faire ça avec un nouveau... Alors, il faut chercher. Alors, j'ai immédiatement pensé à Anne-Thérèse. On se connaît il y a longtemps. On a commencé... j'ai vu sa première spectacle. Alors, je connais le travail très bien. Et Jan Verswijffert, qui est mon scénographe, a beaucoup travaillé avec elle. Alors, je l'ai téléphoné et elle a immédiatement... Elle n'a pas dit oui, mais j'ai senti qu'elle a des doutes positifs. Et alors, ça a pris 3 semaines seulement et elle a dit oui. Et alors, on travaille maintenant, il y a une année déjà, sur le spectacle. On a fait déjà un workshop 4 semaines en novembre. C'est beaucoup... Pour faire un musical à Broadway, ça prend 2 ans de vraiment produire ça. Parce qu'il y a, dans ce cas-là, il y a un orchestre de plus de 20 personnes, ce sont 25 personnes, et sur scène, il y a plus de 40 personnes. Alors, c'est faire un petit opéra, hein, et ça joue 8 fois par semaine. Alors, ça coûte beaucoup d'argent pour produire ça. Alors, la responsabilité est énorme. Aussi dans notre société maintenant, parce que West Side Story, ça parle d'un monde divisé, un monde où petit peu quand je parle de ça, le thème aussi d'électroriste que je travaille maintenant à la Comédie Française, ça parle de la violence dans notre société et comment éviter la violence, parce que la violence est dans nous. Et c'est peut-être... Oui, ok.
Le poids des familles, cette violence, ces divisions, le pouvoir, les désordres de nos sociétés, ça, Ivo Vanov, c'est une des thèmes qui vous sont chers et qu'on retrouve au fil de vos créations. C'est une manière peut-être de souligner aussi les permanences de nos sociétés d'une décennie à l'autre. Vous avez dit refaire à propos de West Side Story, c'est peut-être aussi l'autre fil conducteur de votre travail depuis 30 ans. Il y a toujours l'envie, on a le sentiment chez vous, à un moment de vous réapproprier cet héritage d'un théâtre européen, malgré la rupture que votre génération a voulu mettre en place, d'en revenir aux fondamentaux et à ses plus grands dramaturges et tragédiens que sont Sophocle et Euripide, récemment donc avec Electre Reste, qui sera à la fin du mois à voir à la Comédie Française, avec Shakespeare, ses tragédies romaines ou Kings of War que vous avez mis en scène, avec Molière et son Misanthrope, avec Bergman, Crier chuchotement, avec des écrivains poètes comme Schiller et votre Maria Stuart, ou Cocteau, La voix humaine, Pasolini avec son théorème. Pourquoi ? Pour les faire parler dans une langue d'aujourd'hui, ils avaient tout dit à l'époque, ces classiques,
oui,
et on peut les réinterpréter.
Les classiques sont toujours nos contemporains, hein, parce que c'est pour ça que ce sont des classiques. Des classiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'universel là-dedans, dans ce texte. Et quand je travaille maintenant sur le texte de Répite que j'ai jamais fait, j'ai seulement fait le Bacchante, mais il y a 20 ans, que je ne connaissais pas très bien, c'est très clair pour moi que tout le thème de la radicalisation, le processus d'une radicalisation qu'on voit tous les jours sur les rues, dommage, mais c'est vrai. C'est dans ce texte. On voit Euripide écrit ça. Chaque phase de la radicalisation chez les jeunes hommes et femmes, il décrit ça dans des détails effrayants. Alors c'est ça un classique. J'ai découvert ça quand j'étais jeune, parce que mes premiers spectacles c'était des spectacles que j'ai fait moi-même, avec des textes que j'écris moi-même. Stupide, mais vrai. Et alors, après, j'ai commencé de faire de Marguerite Duras, Heiner Müller, des écrivains que j'aimais beaucoup dans ce temps-là. Alors, c'était des textes contemporains. Mais après, j'étais dans une école et comme professeur pour faire un spectacle avec des acteurs. Mais j'avais 15 acteur devant moi. Alors j'ai pensé, ok, il faut faire une pièce maintenant, et j'ai choisi Troilus et Cressid de Shakespeare. Texte impossible. Mais je l'ai fait et j'ai découvert que la distance du texte de Shakespeare m'a donné beaucoup de liberté d'être moi-même sur scène, d'exprimer ce que je pense, que je sentis, que je sens, que je sentis sur la, sur les hommes, sur les femmes, sur la société et la distance, parfois, donne plus de clarté pour parler d'aujourd'hui.
Vous avez cité...
Pour moi, ouais. Tout à fait.
Vous avez cité Marguerite Duras à l'instant,
oui.
Ivo Vanov, un de ses premiers succès, les vôtres, ce sera l'adaptation d'India Song de Marguerite Duras, avec laquelle vous avez d'ailleurs débuté aussi dans les années 80, je crois que c'était avec Agatha, quand oui. Vous l'avez mise en scène, publiée d'ailleurs au oui. Même moment en 81 chez Minuit en France. On a retrouvé, et plutôt Marie Placé, un très beau document de Marguerite Duras donnant des indications à Michael Lonsdale pour une scène d'India Song. Écoutez.
C'est là, dans la voie 2, là, la fin de la page 43, que s'il y a un secret, il y a le secret d'India Song, tu vois.
Oui.
Dans la répétition de Bangkok. Tu vois.
Oui.
Comment tu lirais ça avec la répétition?
On la trouve à Pékin, et puis à Mandalay, à Bangkok. On la trouve à Bangkok, à Rangoon, à Sydney. On la trouve à Lahore. 17 ans. On la trouve à Calcutta. Calcutta, elle meurt.
Là, tu es bien d'accord, c'est... On la trouve à Pékin, puis à Mandalay, et puis tout d'un coup, il y a une précipitation. À Bangkok, on la trouve à Bangkok.
Ah oui.
Pourquoi, d'après toi, ça...
Ah.
Hein, c'est drôle, j'ai éprouvé le besoin de l'avoir deux fois, le son.
Oui.
Bangkok.
Attends... On la trouve à Pékin et puis à Mandalay, à Bangkok. On la trouve à Bangkok, à Rangoon, à Sydney.
Ah oui, tu mets la précipitation, on la trouve à Bangkok, à Rangoon, à Sydney.
Ah oui.
Moi je la mettrais à Bangkok, on la trouve à Bangkok.
Ah oui,
à Rangoon.
Ah oui, d'accord. On la trouve à Pékin et puis à Mandalay, à Bangkok. On la trouve à Bangkok, à Rangoon, à Sydney. Mm. On la trouve à Lahore, 17 ans. Oui, c'est mieux. On la trouve à Calcutta. Calcutta, elle meurt.
C'est beau et intéressant ce moment, non, où on l'entend douter, hésiter, chercher le bon son sur Bangkok, ses répétitions, dire et redire les silences, la scansion des mots, des phrases. Ça, c'est aussi un moment qui est très important pour vous, ce travail qui peut se faire à la fois dans le jeu, dans la scène, dans l'espace, mais aussi sur le langage.
Oui, mais pas tellement détaillé que Marguerite
Duras. Vous n'êtes pas aussi tatillon
oui,
et minutieux.
C'est très intéressant qu'elle fait avec Michael Lonsdale. Mais mon théâtre est aussi un théâtre très physique. Les corps, le langage est très important parce que toute l'information est dans le langage. Mais il y a aussi un langage des corps. Et dans le théâtre, ça c'est important. Ce sont pas seulement, c'est ça, pas seulement le langage des textes, mais aussi un langage des corps. Et pour moi, j'essaie toujours de faire un mariage parfait entre les deux.
Ivo Vanov est notre invité jusqu'à 12h30. Vous êtes bien sur France Culture. Et pour l'heure, il est 12h20.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
The Hidden Force, la pièce est présentée en ce moment pour la première fois en France, jusqu'à ce soir à la Villette avec le Théâtre de la Ville. C'est l'une de ses programmations. Cette pièce, elle entre dans le cadre de votre trilogie, Ivo Vanov, de l'auteur que vous consacrez à l'auteur néerlandais Louis Couperus. Alors c'est un auteur dramaturge assez particulier dans le paysage, très critique aussi, et on le voit encore avec cette pièce, à travers la figure du régent des Indes néerlandais tout entier voué à sa mission colonisatrice. Vous montrez d'une certaine manière ce que peut être la fin d'un monde, la fin aussi des certitudes pour toutes ces personnes qui ont vécu une époque comme celle où le colonialisme régnait. Il y a l'érosion à travers lui, à travers sa chute, d'une culture dominatrice qui s'imposait aussi au mépris des autres. Ça, c'est une leçon dont on devrait se servir et apprendre aujourd'hui. Avoir une culture commune, c'est important, mais pas au mépris des autres cultures, pas pour être supérieur aux autres.
Oui, c'est, pour moi, c'était incroyable que Couperus a écrit un texte si moderne dans les années, dans le début du XXe siècle. Alors, c'était vraiment clairvoyant de lui, parce qu'il écrit en Hollande, on a toujours, encore maintenant, on a toujours dit que la colonie, c'était pour le bon, pour le bien, pour le rendre quelque chose de bon. Mais on a oublié de vraiment parler avec ce qui était là, les inhabitants de l'Indonésie. Alors, on n'a jamais fait ça. Et ça, c'est des hidden forces. Ça, c'est, ce sont les hommes et les femmes qui habitent là-bas et qui ne disent rien, mais qui, il y a c'est une protestation silencieuse contre les occupateurs. On dit ça en français? Oui, ok.
Les colonisateurs.
Contre l'occupation, on peut dire. Mais, et c'est pour moi, c'était un choc que c'est seulement en 2005, il y a quelques années, que le ministre, que le gouvernement a dit, a déclaré l'indépendance de l'Indonésie. C'est incroyable. Ça a duré plus qu'un siècle de faire ça. Alors, ça veut dire beaucoup sur l'Hollande, mais aussi sur les gens qui croient qu'ils sont les propriétaires de la civilisation.
Est-ce que vous pensez-vous qu'il y a des cultures européennes, une belge, une française, une italienne, une allemande, ou est-ce qu'il y a une culture commune aussi qui peut
aussi
exister?
Moi, je suis cosmopolitain, hein, mais je suis aussi belge. On a, c'est Amin Malouf, hein, il a écrit un très beau petit livre sur ça. Et il dit qu'on croit toujours que l'identité, c'est seulement l'identité ethnique. Mais c'est pas le cas. On a 15, 20 identités. Moi, je suis belge, mais je suis aussi flamand. Moi, je suis aussi cosmopolitain. Je suis homosexuel, mais je suis aussi le directeur d'un... J'ai beaucoup d'identités. Il ne faut pas... Et ça, c'est le problème maintenant, dans notre société maintenant. Quand on parle de la radicalisation, c'est toujours... On vit dans une vision de tunnel. On voit l'autre seulement comme l'autre, comme l'ennemi. Hein? Pas comme un homme ou une femme. Une femme qui a aussi peut-être des enfants, des frères, des sœurs. Et on a la tendance de démoniser l'autre et pour le détruire. Et ça, c'est la pièce que je fais maintenant. Hidden Force parle de ça, mais aussi Electro-Res parle de ça. Et je crois que c'est le thème peut-être le plus important. Comment faire ça? Comment trouver une solution pour ça? Parce que c'est clair qu'on ne peut pas dire nous sommes bons, nous sommes civilisés et les autres sont des barbares. C'est pas possible encore.
Mais diaboliser l'autre, c'est aussi l'un des motifs qu'on peut retrouver en arrière-plan des damnés que vous avez mis en scène. L'une de vos créations phares, celle du Festival d'Avignon en 2016, qui avait été présentée dans la Cour d'honneur avant de rejoindre la Comédie Française, puis de passer par Londres, par New York. Votre adaptation donc de ce film de Visconti qui revient aux Français, à voir jusqu'au 2 juin. Les damnés, vous montriez dedans comment une bourgeoisie éclairée est capable du pire, comment une nation est capable de basculer à travers la chute de cette maison Aschenbach. C'était celle aussi de l'Allemagne, de cette supériorité telle qu'elle était pensée, que vous symbolisiez, non?
Oui, mais pour moi, les années, c'était un spectacle inattendu. Je n'ai jamais pensé de faire ça parce que je ne voulais jamais faire quelque chose sur la Deuxième Guerre. Mais alors j'ai relu le scénario et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui parlent de nous maintenant. Mmh. Alors je ne voulais pas un spectacle sur le fascisme.
Ce qui était inattendu, c'est l'écho que le spectacle a trouvé aujourd'hui.
Excusez-moi.
Ce qui était inattendu pour vous, c'est l'écho que la pièce a trouvé avec aujourd'hui.
Non, mais ça n'était pas entendu parce que pendant la répétition, j'ai ressenti ça déjà, que c'était vraiment une pièce sur aujourd'hui, qui parle des thèmes qui sont importants aujourd'hui, pas hier.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, cette idée du parallèle qu'on pourrait faire entre les années 30 et aujourd'hui, avec la montée des extrémismes en Europe, avec l'antisémitisme, avec les agressions homophobes. C'est un motif récurrent, ce parallèle qui est fait dans les discours politiques et médiatiques.
Mais par faire le parallèle, ça nous aide pas. Il faut penser à aujourd'hui, résoudre les problèmes aujourd'hui, parce qu'autrement on peut dire, mais ça c'est une extrémité, on ne va pas devenir comme ça, comme les fascistes, on n'est pas des fascistes, c'est toujours la même chose. Quand on compare ça aux Deuxième Guerre, c'est ça que je ne voulais pas faire. Je voulais dire, c'est aujourd'hui. Parce que les costumes, ce ne sont pas des costumes historiques que j'ai utilisés. Je crois que c'est important de voir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec une vision moderne, contemporaine, pas d'une siècle. Et bien sûr, il faut toujours étudier l'histoire pour comprendre notre jour aujourd'hui, mais il ne faut pas toujours comparer.
Et pourtant, justement, pour aller développer cette vision contemporaine, vous allez une fois encore puiser dans des textes fondateurs, dans le cadre d'une initiative hollandaise, celle du Théâtre International d'Amsterdam et de Bali. On vous a proposé de diriger ce projet qui s'appelle Recreating Europe, recréer, repenser l'Europe à travers une série de textes ou de discours importants. Alors ça va de Shakespeare à Mitterrand en passant par Margaret Thatcher. Quelle est l'idée de ce projet qui sera présenté, je le dis juste pour nos éditeurs, à Paris, aux Ateliers Berthier le 4 mai, et partout en Europe, avec ici Charles Berling, Lars Eidinger, le comédien allemand star de Thomas Ostermeyer. Vous allez partir en quête d'Europe à travers ces textes-là?
Oui, l'idée, c'était très simple. L'idée, c'était de... on a oublié ce qui était l'idée de l'Europe originale. Alors, je voulais comprendre c'était quoi qu'on voulait dans ce temps-là. Et alors, je donne aussi, par exemple, Margaret Thatcher a fait un speech contre l'Europe immédiatement. Alors, les tensions étaient là dans le passé, qui sont encore là aujourd'hui. Et je voulais comprendre c'était quoi la vision originale et aussi comprendre quelles sont les positions de qui ne voulait pas Europe et qui ne veut pas Europe. Parce que c'est toujours important de comprendre avant de juger.
Merci beaucoup, Ivo Vanhoff. Si ça vous intéresse, vous devriez lire ou rencontrer l'invité de la deuxième partie de la Grande Table, Carlo Ossola, philosophe italien, professeur au Collège de France, qui a travaillé sur tous ces mythes, ces grands récits, ces fables d'identité, comme il dit, et qui pense qu'il faut aussi en revenir à cela pour retrouver l'Europe d'aujourd'hui. Il est à écouter dans la Grande Table à partir de 12h55. Un grand merci à vous.
Merci à vous.